France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au programme du 5-6 ce matin, au capitaine, mon capitaine, portrait de celui qui pilote le Belém dans les chroniques littorales. Mais qui sont les groupies? Question posée dans la chronique d'où ça sort à 5h20. Au réveil, un café et un jus d'orange avec Pulp. Le légendaire groupe britannique est de retour et il est dans la playlist de France Inter. Dans le premier zoom, on tente de savoir comment empêcher que les mineurs soient exposés à la pornographie. Et à 6h moins le quart, on appelle une consultante en management industriel. Elle sera notre invitée déjà debout.
France Inter.
Mais d'abord un premier journal avec vous, Raphaël Ben Abdelmoumen, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Près de 70 ans après les premiers signalements de violence à Bétaram, les manquements continuent.
C'est la conclusion d'une visite d'inspection réalisée au sein de l'établissement catholique le mois dernier, si bien que la ministre de l'Éducation annonce l'ouverture d'une enquête administrative visant l'institution des Pyrénées-Atlantiques. Alors qu'est-ce qui a poussé Elisabeth Borne à lancer cette enquête, Victor Maté?
Si le rapport réalisé fin mars évoque plusieurs manquements, cette enquête administrative qu'annonce Elisabeth Borne, elle vise en particulier les agissements de deux enseignants qui, de manière répétée et régulière, auraient eu des remarques blessantes et humiliantes. On parle aussi de moqueries en public vis-à-vis d'élèves en difficulté scolaire, explique la ministre. Lors du contrôle effectué par le rectorat, le premier à Bétaram depuis 1996, et qui donne lieu à ce rapport d'une soixantaine de pages, a aussi été révélé que l'établissement a eu connaissance de deux faits d'agression sexuelle subie par des élèves de la part d'autres jeunes en 2024. Elisabeth Borne ne précise pas où ont eu lieu ces violences, mais appelle à des signalements impératifs. Des mises en demeure et en conformité ont été demandées sur ces sujets actuels ou récents, pas anciens donc. Si elles ne sont pas respectées, le contrat d'association de Bétaram avec l'État pourrait-il être remis en cause? On n'en est pas là aujourd'hui, répond la ministre de l'Éducation.
Elisabeth Borne, qui sera auditionnée dans le courant du mois de mai par la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire, créé dans la foulée du scandale de Bétaram. On parle là des violences physiques et sexuelles qui ont eu lieu au sein de l'institution pendant des décennies. Les parlementaires entendront également le Premier ministre François Bayrou. Il était à l'époque ministre de l'Éducation. Il nie toujours avoir été au courant de ces violences. La colère et l'incompréhension des parents d'Evaël, l'ancienne enseignante de leur fille, a été relaxée hier par la justice. Elle était poursuivie pour harcèlement sur mineurs. Les parents de la collégienne l'accusent d'avoir provoqué le suicide d'Evaël en juin 2019, mais le tribunal a considéré que le comportement de l'enseignante était adapté et légitime. Seul le parquet, qui avait requis 18 mois de prison avec sursis, peut faire appel du jugement.
5h03 sur France Inter, les bourses asiatiques plongent de nouveau ce matin.
Même tendance à Wall Street hier soir, entre la volte-face de Donald Trump à propos de ses tarifs douaniers dits réciproques et la confirmation que la Chine sera, elle, très lourdement taxée. Les investisseurs ne savent plus sur quel pied danser et les signaux envoyés hier par le président américain, Loïc Loury, ne devrait pas franchement les aider.
La transition aura un coût pour les Américains. Il y a des problèmes en perspective. Donald Trump reconnaît que ses tarifs douaniers n'ont pas que du bon. Mais à terme, assure le président, ce sera, dit-il, une très belle chose. On est très heureux de la façon dont le pays se porte. On essaye de faire en sorte que le monde nous traite plus justement. Ça aurait dû être fait il y a 25 ans, mais ça n'a pas été le cas. Aucun président n'en avait eu la volonté. Ça ne pouvait plus durer. Le milliardaire s'exprimait lors d'un conseil des ministres en forme de célébration autosatisfaite et à laquelle tout le monde pouvait participer. Rien d'inhabituel sur les marchés, assurait ainsi le ministre des Finances, malgré des cours en forme de montagne russe. La Maison-Blanche fait comme si de rien n'était et sans préciser sa stratégie, s'il en est une, 145% de taxes contre la Chine, 10% pour le reste du monde, sans parler des tarifs réciproque dans la balance. Quant aux négociations promises à ce sujet, on n'en connaît ni les contours ni les avancées, mais 75 pays se seraient manifestés et tout le monde se réjouit. Donald Trump veut passer un accord. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et de son côté, l'Union européenne a retiré sa riposte douanière. Une décision très intelligente, a salué Donald Trump hier. Mais l'UE menace de taxer les géants américains de la tech si les négociations ne parviennent pas à mettre fin à la guerre commerciale. Et c'est dans ce contexte d'incertitude économique et de prévision de croissance revue à la baisse que l'agence de notation Moody's doit se prononcer aujourd'hui sur la note de la France, 4 mois après l'avoir dégradée d'un cran. Un hélicoptère s'écrase dans le fleuve Hudson à New York. L'appareil a décroché hier soir, tuant les 6 occupants, le pilote ainsi qu'une famille de touristes espagnols, dont 3 enfants. C'est le dernier accident mortel d'hélicoptère en date d'une longue série dans le ciel encombré de New York. Les secours mettent un terme à leurs opérations de recherche à Saint-Domingue, en République dominicaine. Depuis 4 jours, ils fouillent les décombres d'une discothèque. Le toit du bâtiment s'est effondré pendant un concert. Le dernier bilan s'élève à 221 morts, selon les secouristes. Parmi les victimes, le chanteur Ruby Pérez ainsi qu'un couple de Français.
Et après Citroën et Volkswagen, c'est au tour de Toyota et Mercedes de rappeler des centaines de milliers de voitures en France.
En cause, les airbags de la marque japonaise Takata. Ils risquent d'exploser à cause d'un gaz qui vieillit mal. 20 modèles de véhicules commercialisés entre 2001 et 2018 sont concernés. Toyota et Mercedes déconseillent à leurs propriétaires de rouler tant que la réparation n'a pas été faite. Il a disputé 60 de matchs avec le 15 de France, mais Sébastien Chabal ne se souvient plus de rien. Témoignage choc d'une icône du rugby français dans l'émission Legend sur YouTube. Alors que l'on évoque de plus en plus les problèmes de commotion dans le rugby, une réalité que constatent aussi les joueurs amateurs, Guillaume Batin s'est rendu au Sporting Club Universitaire de France, dans le 17e arrondissement de Paris.
Nicolas sort de 2 heures d'entraînement avec l'équipe senior. Il a 28 ans et 15 ans de rugby derrière lui.
Moi, cette année, là, j'ai pris un bon choc. Alors pour le coup, c'était plus une rigolade avec un pote où on a fait un petit 1 contre 1 pour rigoler. Et au moment du plaquage, j'ai mal placé ma tête et du coup, j'ai eu des fourmis, je me suis un petit peu éteint. À chaque match, on prend et le lendemain, on sait qu'on est, voilà, on est secoué, mais c'est ce qu'on aime aussi. Je commence à me dire qu'en vrai, avoir des blessures, au bout d'un moment, il faut peut-être passer à autre chose.
Issam joue dans la même équipe que Nicolas, 2e ligne, le même poste que Sébastien Chabal.
À l'époque où Chabal jouait, ça mettait des gros placards un peu de partout. Après, à mon niveau en amateur, les règles sont plus strictes, les plaquages sont plus bas. Dans notre équipe, les gens donnent de leur corps, mais ça va aussi s'écouter et pas sacrifier jusqu'au point de plus pouvoir se rappeler des matchs qu'ils ont fait en amateur.
Benoît entraîne les moins de 18 ans et cette saison, 80 entraînements et 20 matchs, il a assisté à 3 commotions, 3 chocs violents à la tête.
Ouais, aujourd'hui, on est bien formés. C'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Au départ, je pense qu'on était moins sensibilisés, moins éveillés. Aujourd'hui, on est assez prudent dès qu'on suspecte, dès qu'on voit que les joueurs ils ont pris des coups. Il y a un protocole qui a été établi par la Fédération française de rugby qui permet d'être prudent.
Et la plupart des joueurs ne portent pas le casque ou alors seulement pour protéger leurs oreilles.
Le reportage de Guillaume Batin pour Inter. Et puis côté terrain, Lyon a arraché le nul hier face à Manchester United. C'est du football, 2 partout en quart de finale aller de Ligue Europa. Égalisation lyonnaise grâce à un but de Ryan Cherki dans le temps additionnel, ce qui permet à l'OL de préserver l'essentiel avant le match retour. Ce sera jeudi prochain sur la pelouse de Manchester.
Raphaël Ben Abdelmoumen pour le journal et vous revenez dans moins d'une demi-heure. Il est 5h08 sur France Inter.
La météo avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Il fait beau, Elodie Calac.
Une belle journée de printemps, beaucoup de soleil dès ce matin, quelques plaques de grisaille vers les côtes de la Manche jusqu'au Hauts-de-France, mais on en parlera plus cet après-midi. Du Roussillon vers la basse vallée du Rhône et la région toulousaine, le vent de sud-est apporte pas mal de nuages bas. Le soleil va s'imposer cet après-midi. Le vent d'autant souffle jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Notez qu'une petite ondée n'est pas exclue ce matin, des côtes de la Gironde jusqu'à la Vendée. Cet après-midi, des nuages élevés vont gagner le sud-ouest sans gâcher l'impression de beau temps. En revanche, en fin de journée, les nuages vont s'épaissir sur l'ouest des Pyrénées avec quelques gouttes. Ce sont les prémices de la dégradation attendue pour le week-end. Les températures sont en hausse, parfois encore fraîches ce matin, avec 0 à 6 degrés sur une bonne partie nord, mais 8 à 13 degrés du sud-ouest à la Méditerranée. Cet après-midi, il fera très doux pour la saison et même chaud dans le sud-ouest, 14 degrés à Granville, 20 à Lille et Martigues, 22 à Nantes, à Paris, à Belfort aussi, 23 à Bourges et à Lyon, 26 à Limoges ou à Bordeaux et 27 à Bayonne.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h09 à suivre sur France Inter. Le capitaine du Belém nous raconte son trois-mâts dans les chroniques littorales. Notre invitée déjà debout est consultante en management et stratégie industrielle. Elle sera avec nous à 6h moins le quart. Avant ça, un gros plan sur celles qui passent leur nuit sans dormir à gâcher leur bel avenir. Les groupies sont dans la chronique d'où ça sort. Et puis l'afflux de réservistes français est dans la chronique de Charline Vanhoenacker. Charline Vanhoenacker explose les faits, c'est à 5h25. Mais tout de suite, à 5h10, on embarque, avant d'embarquer sur un fameux trois-mâts, d'abord la musique avec le grand retour de Jeanne Chéral. Elle chante Jean sur son nouvel album.
J'en ai marre de rêver de vous, Jean. J'en ai marre de parler de vous, Jean. J'en peux plus de ne penser qu'à vous. Jean, on est connu des plus forts que vous, Jean. On est connu des plus beaux que vous, Jean. On est connu, mais il n'était pas vous.
Par Jeanne Chéral, à retrouver en concert dans le cadre du Printemps de Bourges. C'est un partenariat France Inter. Et le vendredi 18 avril prochain, et en tournée dans toute la France. 5h13 sur France Inter, c'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez un capitaine, et quel capitaine ?
En la personne de Aymeric Gibet, Marion. Aymeric Gibet, bonjour.
Bonjour.
Je pourrais dire aussi capitaine, bonjour.
On peut dire les capitaines,
ouais,
en effet.
Parce qu'Aymeric Gibet, c'est le capitaine du Belém, le fameux Belém. Et vous, en tant que capitaine du Belém, on a déjà un petit peu parlé dans les chroniques littorales du Belém, vous avez été le commandant qui a amené la flamme olympique.
C'est ça, j'ai eu la chance de vivre ce moment exceptionnel d'amener la flamme depuis Athènes jusqu'à Marseille. Donc on est arrivé en fanfare au Vieux-Port le 8 mai 2024.
Ouais. Départ d'Athènes, direction Marseille.
C'est exactement ça.
Qu'est-ce qu'on ressent quand la flamme arrive sur le bateau ?
Au début, on a un peu de stress parce qu'on se dit quand même qu'on va avoir ce symbole mondial à bord du navire. Ouais. On a aussi cette excitation, on en prend plein les yeux parce qu'on voit des gens très importants dont on connaît déjà, alors principalement Tony Estanguet par exemple.
Oui.
Et puis on largue tout devant, on largue tout derrière, on a pareil avec cette petite flamme, si petite mais qui représente tellement à bord. Alors d'un coup, la responsabilité du commandant, de son équipage et des jeunes éclaireurs qu'on avait à bord augmente. Et la traversée s'est très très bien passée.
Qu'est-ce que ça veut dire être commandant ou capitaine d'un bateau à voile ?
Alors,
vous qui avez été capitaine sur le Ponant par exemple ou sur des câbliers, c'est alors, quoi la différence ?
J'ai eu la chance en effet d'exercer le métier d'officier sur plusieurs autres navires que le Belém. Le Belém il est unique parce que bah, vous l'avez dit, c'est un voilier, donc des grands voiliers. Quand on sort de l'Hydro, de l'école de la marine marchande française, oui, on n'est pas formé à ce genre de navire.
Les alors, marins non plus d'ailleurs.
Les marins non plus parce que c'est vrai qu'on bah, n'a pas beaucoup de grands voiliers. Alors c'est important parce qu'il faut se mettre en avant sur le fait qu'il faut réapprendre comment faire évoluer un navire. Trois mâts, phare carré, 1200 mètres carrés de voilure. Le Belém avance grâce au vent, mais le vent n'est pas forcément dans la bonne direction pour nous. Donc c'est à nous d'adapter et de faire que le Belém navigue. Donc il y a toute cette prise nautique du navire. Et puis après, comme tout commandant, on est responsable de l'exploitation maritime, de l'expédition maritime, de l'aventure d'une certaine manière, en respectant la sécurité à bord, le bien-être de nos stagiaires, de notre équipage, que tout le monde puisse remplir sa
fonction. Parce qu'il y a des stagiaires sur le Belém, l'esprit d'équipage ?
L'esprit d'équipage est strictement nécessaire. Que la mission du Belém continue tous ensemble.
Est-ce que c'est pour un capitaine d'avoir vécu la propulsion moteur et la propulsion voile ?
Alors, en tant que capitaine, on l'intègre, c'est surtout en tant que chef de car. Chef de car, c'est vraiment l'officier qui, deux fois quatre heures par jour, a la conduite du navire. Et il y a ce qu'on appelle les capacités de manœuvre du navire, fait que quand on est sous voile, on a ce qu'on appelle un côté au vent et un côté sous le vent, et le Belém ne peut pas remonter au vent. Ce qui fait que notre capacité de manœuvre est très restreinte. Et il faut assez anticipé. Alors le Belém va pas très vite. Le Belém sous voile, on va compter 4 nœuds, 5 nœuds.
Ça fait moins de 10 km.
Voilà. Mais le vent peut changer de direction, peut changer d'intensité. Donc il faut devoir réagir. Donc en fait, on a souvent l'impression d'un calme à bord, mais il y a une attention permanente de l'officier de car et de l'équipage sur comment réagit le navire, est-ce qu'il faut agir maintenant, est-ce qu'on peut attendre, etc.
Et où allez-vous partir avec le Belém, capitaine ?
Alors cette année, pour 2025, on va partir au plus nord à Aberdeen, en Écosse, dans le cadre de la Tull Ship Race, où on va faire une régate avec tous les grands voiliers du monde. À bord, on aura nos jeunes éclaireurs de la Fondation Belém Caisse d'Épargne. Et puis ensuite, le Belém ralliera aussi tous les grands rassemblements internationaux, dont le plus grand rassemblement du monde de grands voiliers, qui est Amsterdam. Et puis des fêtes aussi locales, Caen, Calais, des bords de Loire. Et on maintient bien entendu nos stages ouverts à tous, avec des navigations en Norvège, en Suède, le passage de Kiel aussi en Allemagne.
On va au Maroc.
On va commencer à chercher le soleil. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est chaque année, de produire un programme sur mesure, selon les événements nautiques, selon les besoins de nos stagiaires, pour faire que le Belém fasse le plus de milles à la voile.
Merci à vous, Aymeric Gibet, le capitaine du Belém. Un site internet, fondationbelém.com. Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José-Manuel Lamarque, il est 5h17.
Le 5-6 sur France Inter.
Les unes de la presse ce matin, c'est encore la guerre commerciale de Donald Trump qui fait rage et inquiète. Elle est donc à la une des Échos ce matin, notamment du Figaro. Tarifs douaniers, l'Europe craint un afflux de produits chinois. C'est le titre de une du Figaro. Selon le quotidien, Bruxelles planche sur un dispositif pour amortir le choc. Guerre commerciale, la riposte chinoise. Titre plus neutre, le journal La Croix. Une ouvrière chinoise en photo, Pékin a décidé d'entamer un bras de fer avec Washington, détaille le quotidien. Pas de titre, c'est étonnant sur le Libé des écrivains. À l'occasion du Festival du Livre, le quotidien ouvre ses pages aux auteurs. Mais la une montre bien Donald Trump, encore lui un Trump totalement décoiffé, le vent de la révolte contre sa guerre commerciale peut-être. Les Échos, eux, plus optimistes, titre « Droit de douane, la désescalade », puisqu'en effet le président des États-Unis a suspendu pour 3 mois ce qui concerne l'Union européenne. Bruxelles a fait de même et le quotidien économique semble se réjouir que la présidente de la Commission donne, je cite, « une chance aux négociations ». Au chapitre gros sous, le Parisien, lui, s'intéresse à nos impôts, ce qui pourrait augmenter à cause de la croissance plombée par la guerre commerciale notamment. Mais là, il s'agit de nos déclarations. Elles démarrent aujourd'hui et le journal francilien nous propose le mode d'emploi. Et l'Asie, à nouveau, dans sa version plus attractive, elle est en une de vos hebdos. au cœur de la tech chinoise. Ça, c'est la proposition des Échos Week-end et cette magnifique photo de Hangzhou, cette métropole chinoise qui défie la Silicon Valley. Le Parisien Week-end, lui, nous invite au Japon. Bienvenue dans le monde de demain, clame la couverture. À l'intérieur, l'article nous fait rêver avec des robots sociaux très kawaii et des technologies de pointe pour l'environnement. À 5h19, comme tous les matins, à cet horaire, un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, elles passent donc leur nuit sans dormir à gâcher leur bel avenir. Les groupies, d'où ça sort ?
Les groupies ont toujours existé et ont toujours été méprisées. C'est ce que vous dites, Sophie Bénard.
Oui.
Mais vous savez quoi ? Les groupies, ce ne sont pas juste des filles. D'ailleurs, il n'y a que des filles sur la couverture de votre livre. Je vais prendre un exemple que je connais bien, le mien, oui, car j'aime parler de moi, car je suis une groupie. Et c'est ce que je vais vous raconter pour illustrer ce d'où ça sort, les groupies. 26 juin 1993, ma sœur et ses amis m'embarquent à l'hippodrome de Vincennes. Ils vont voir U2. Eux, ils aiment bien U2. Moi, je ne les connais pas. On est au milieu d'une marée humaine. C'est le Velvet Underground de Lou Reed qui fait la première partie. Wow. À la faveur d'un mouvement de foule, je me retrouve devant une mini-scène, une scène gigantesque. Le concert commence, le son est dingue, les images surgissent de partout. Bono se plonge devant la foule, juste devant moi. Et moi, j'éprouve seulement un sentiment d'écrasement, comme si les 75 000 personnes avaient envie de le toucher. Pas moi, parce que je ne suis pas encore une groupie. Ça, ça va arriver après. Le concert a laissé des traces. Février 97, j'entends pour la première fois le morceau discothèque sur mon autoradio, de ma voiture. Je suis scotché. Le 3 mars, je vais acheter l'album Pop à la Fnac de Bastille. Ouverte exprès pour la sortie de l'album, le magasin était fermé, l'époque où les disques avaient encore de l'importance. 23 août 97, je suis au stade Wembley de Londres pour ce qui est mon premier concert de fans de groupies. Suivront Paris, Berlin, San Diego, Vancouver, Barcelone, Dublin, Glasgow, Anaheim, Turin, San José, Las Vegas.
Mais non.
Des stades, des salles.
Ça c'est vrai ?
Tout ça c'est vrai. Des émissions de télé, le Man Ray à Paris en 2000, 33 concerts depuis donc 93. J'ai attendu parfois des heures dehors avant des concerts, parfois sous la pluie. Je suis allé voir à quoi ressemble la maison de Bono et The Edge près de Nice. J'ai créé un site avec un ami, un fan comme moi. J'ai été fébrile comme un gamin quand j'ai rencontré Bono ici dans un studio d'Inter. Et j'ai toujours pas réalisé que le type avec qui j'ai parlé est le même que j'ai vu sur scène plus d'une trentaine de fois. Leur musique accompagne ma vie depuis près de 30 ans. J'en fais même écouter à mes deux fils, les pauvres, les chanceux à voir. D'où ça sort les groupies ? Eh bien voilà, d'un truc inexplicable.
Mais des explications quand même, il y en a dans le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter, bien sûr, sur le site de France Inter. C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël et tous les deux reviennent à 16h cet après-midi. Il sera notamment question de cette rencontre entre François Mitterrand et le maréchal Pétain en 1942. 5h22 sur France Inter. Dans un instant, garde à vous, ce sera l'humour de Charline Vanhoenacker. Mais tout de suite, traversons la Manche pour retrouver Joy Crooks et son titre « I know you'd kill ».
Throwing hands and your hoops away. Get far, but it's not by playing nice. They got ice on their rosaries. They so refined, capital in price. I can't trust that. I'm
Demain, c'était Joy Crooks sur France Inter.
France Inter.
Et à 5h25, chouette, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10, elle explose les faits. Et mardi, elle nous parlait des milliers de personnes qui se sont portées volontaires pour être réservistes dans l'armée, c'est-à-dire se rendre disponibles en cas de guerre.
Dans son allocution du 5 mars, le président a dit que la Russie était une menace pour la France et que le pays avait besoin de ses citoyens. Et depuis, les candidatures pour devenir réservistes ont triplé, 7500 inscrits en un mois. Et dites donc, vous n'êtes pas rancunier, hein ?
Ouais.
Dès que Macron vous demande de faire un truc, vous vous exécutez, alors que quand c'est vous qui lui demandez quelque chose, on sait comment ça se passe. Hein. La réserviste, c'est en plus du boulot. C'est un engagement loisir, quoi. Alors, pourquoi j'ai choisi l'armée ? Bon, bah, le cours de Zumba était complet, j'avais mes mardis soirs de libre. Réserviste, c'est comme militaire, mais bénévole, et c'est s'engager sans trop savoir si on aura besoin de vous un jour. Il y a un côté soldat amateur. Donc, on est curieux de connaître les motivations des réservistes. Hein, c'est quoi le délire ? Voilà, comme vous avez appris que pour les augmentations de salaire, c'était mort, vous visez tous la Légion d'honneur. Je me dis que dans l'eau, il y a peut-être des types qui ont échoué dans le réarmement démographique. Bah, déjà, c'est qu'ils visent mal. Ah oui.
Pas mal.
Et oui. Parfois, je me rappelle qu'en face, il y a Visorek sur RTL.
Et donc, là,
je m'adapte.
Voilà.
Pour en arriver là, il y a des Français qui ont très envie de défendre la nation et qui en ont marre de voir leur patrie se faire humilier. Entre la Russie qui leur marche dessus, les États-Unis qui leur tournent le dos et tout le reste de la planète qui se fout de votre gueule chaque année pendant Roland-Garros, la coupe est pleine. Alors, nos confrères de France Info ont épluché les différents profils qui ont posé leur candidature parmi les 12 000 inscrits depuis le début de l'année. Alors, il y a de tout, hein. Infirmières, informaticiens, universitaires. Les réservistes peuvent utiliser leurs compétences acquises dans la vie civile pour servir la patrie. Alors, moi, je suis capable de gérer des troupes dans des conditions extrêmes, le froid, l'humidité, le plafond qui s'écroule. Parfait, vous faites quoi comme boulot ? Je suis enseignant au lycée public dans le froid. Attendez, 12 000 recrues depuis janvier. Donc on arrive plus facilement à recruter des militaires remplaçants que des profs titulaires. Alors que le vrai champ de bataille, c'est l'école quand même. Bref, toutes les compétences sont les bienvenues. On a tous quelque chose à apporter à l'armée. Bon, sauf moi. Moi, j'ai vraiment aucune compétence pour servir la nation. Sur le front ukrainien, personne n'a envie d'entendre des blagues sur Eric Ciotti. On est d'accord. Non. Vous, Léa, il y a de la compétence.
Moi, je serais mieux que vous.
Ah, mais
à l'armée.
Eh ben, moi, je vous confie la. Dites donc. Je vous confie la guerre psychologique, moi, Léa. 8 heures non-stop, d'impromptu, balancé dans des sonos à fond sur les lignes ennemies.
C'est pire que Guantanamo.
Oui, voilà, je me rends, je vous supplie, arrêtez de me demander Godard ou Truffaut. Voilà, en plus, réserviste dans l'armée. Mais attends, mais ça dessine l'étoffe d'un héros. Parce que t'es la chérie, c'est décidé, je pars au front. Non, Michel, ne fais pas ça, pense aux enfants. Pardon, Monique, mais c'est le devoir qui m'appelle. Je viens de télécharger le formulaire d'inscription. Non, Michel, pourquoi ? Ah, par contre, le fichier PDF ne s'ouvre pas. Après, dans 40 ans, tu pourras partager un récit avec les petits-enfants. Alors, papy, c'était comment la guerre ? C'était horrible, les enfants. J'ai passé un mois complètement bloqué. Ah, dans les geôles russes ? Non, sur le site du ministère. Le front du formulaire PDF ne s'est jamais ouvert. Et c'est là que votre grand-mère a eu cette phrase. Michel, avant de mourir au front, tu penseras à descendre la poubelle. Voilà. Alors, pour l'instant, l'armée promet une inscription en 15 minutes, normalement. Voilà. C'est 12 fois plus rapide que Parcoursup. Donc, attention, un formulaire rempli un samedi à 3h52 du matin, c'est peut-être quelqu'un qui va le regretter le lendemain.
France Inter. Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi 9h45 sur Inter et demain, samedi 19h20, pour Bistroscopie avec l'anthropologue Michel Agier, spécialiste du racisme. Dans une poignée de secondes, le journal.
Lisa, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé qu'on était à deux dans un lit. Là, je n'en peux plus. C'était mon frontal, on dirait mon acné.
Tous les jours, les humoristes de France Inter vous réveillent.
En même temps, j'écris hyper bien sur l'amour. Ce serait con que j'arrête. Je crois que c'est mon corps qui m'inspire.
Vous gratte.
Alors certains vont me dire, oui, mais moi, j'ai pas de bras. Du coup, ça marche pas. Et à ces personnes, je réponds, vous avez pas de bras, mais vous avez du crépi. Donc, tout va bien.
Vous pique.
Bon, pour ceux qui savent pas, un after, c'est quand tout est fermé, mais que toi, t'es encore ouvert à l'idée de prendre de mauvaises décisions.
Les humoristes toute la journée dans votre radio et quand vous voulez sur la chaîne YouTube de France Inter.
Et
Il est 5h29 sur France Inter. Mais qui voilà, c'est Ali Badou qui vient de me rejoindre en studio pour...
Moi-même.
Oui, nous donner le programme.
Je crois bien, avec quelques rendez-vous, effectivement, Marion. Bonjour.
Bonjour.
À 6h20, votre invité sera Vincent Montagne, qui est le président du syndicat national de l'édition et qui est le président du Festival du Livre de Paris qui ouvre ses portes
aujourd'hui
même. À 8h moins le quart, dans le débat écho, une question débattue par Thomas Porcher et Dominique Seux. Et si nous assistions à la fin de la mondialisation économique. Et puis à 8h20, le grand entretien avec un homme de lettres, grand avocat des libertés publiques. François Sureau se lance dans le polar avec les aventures de Thomas More et un premier roman, Les Enfants Perdus, chez Gallimard. Il sera notre invité pour en parler tout à l'heure.
À tout à l'heure. France Inter, il est 5h30. Le journal Raphaël Ben Abdel Moumen, bonjour.
Bonjour.
Ils n'ont plus aucun espoir de retrouver des survivants.
Les secouristes ont arrêté leurs recherches en République dominicaine. Dans la nuit de lundi à mardi, le toit d'une discothèque s'est effondré à Saint-Domingue, la capitale. Le bilan toujours provisoire s'est alourdi à 221 morts. Un couple de Français qui habitait dans le pays fait partie des victimes. Les premières obsèques collectives ont déjà eu lieu et le pays, Isabelle Labéry, est toujours en état de choc.
Le jet set n'est plus qu'un enchevêtrement de morceaux de béton gris et poussiéreux, découpés à la scie et évacués par les pelleteuses. Dans les décombres, on aperçoit une chaussure, un sac à main. Juan Manuel Mendez a dirigé les secours. Il est patron du centre des opérations d'urgence.
Aujourd'hui, nous terminons la tâche la plus difficile à laquelle j'ai été confronté en 20 ans.
Au bord des larmes, devant les caméras.
Et je m'excuse parce que chaque fois que quelqu'un cherche un proche, on se sent totalement impuissant. Ça veut dire que des personnes sont toujours prises au piège et qu'on ne les a toujours pas retrouvées.
Pour accélérer le travail d'identification, les familles doivent venir avec une photo, puis remplir une demande d'autopsie et attendre. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent le moment précis où le plafond a cédé pour s'écraser sur la foule. Mais les causes du drame ne sont pas encore connues. Saint-Domingue va mettre en place une commission d'enquête composée d'experts dominicains et étrangers. Le président a prolongé le deuil national jusqu'à samedi.
Le récit d'Isabelle Labéry. La guerre commerciale de Donald Trump ressemble de plus en plus à un duel de superpuissance. Le président américain a suspendu temporairement hier ses droits de douane réciproques pour tous les pays, sauf la Chine. Alors si les bourses européennes reprennent des couleurs, les places financières asiatiques chutent une nouvelle fois ce matin. Les taxes à l'importation visant la Chine vont finalement atteindre le niveau vertigineux de 145% au total. Le chiffre ne cesse d'augmenter. De son côté, l'Union européenne est relativement épargnée. Seulement 10% de surtaxes pendant 90 jours. Le temps de trouver un accord. En France, la reprise de l'usine chimique Vancorex s'attribue à un groupe chinois. Mais ce n'est qu'une reprise partielle. Le nouveau propriétaire ne gardera qu'une cinquantaine des 450 salariés. Au total, ce sont 6000 emplois directs et indirects qui vont disparaître, selon Christophe Ferrari, le président de la métropole de Grenoble où est installé le site.
5h32 sur France Inter. Les Français consomment de moins en moins de produits bio.
Et c'est en partie la faute de la grande distribution. Suppression d'objets en vente, disparition de certaines références dans les rayons. C'est le résultat d'une enquête de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et avec l'inflation, les grandes enseignes n'ont pas poursuivi leurs engagements pour soutenir la filière, Nina Sobetski.
Carrefour, Intermarché, U, Lidl, Monoprix, Leclerc, Auchan et Aldi. Aucune de ces enseignes n'affiche plus d'objectifs chiffrés sur le bio. Marie Rappeau, chargée de mission alimentation durable à la FNH.
Pourtant, certaines le faisaient avant la crise. On avait Michel-Edouard Leclerc qui parlait d'un doublement de ses parts de vente bio d'ici 2022, qui ne communique plus du tout là-dessus dans les médias. Intermarché qui avait des objectifs de 16% en 2023, qui est disparu depuis.
En 2023, 7 à 25% des références de produits bio ont disparu des rayons par rapport à l'année précédente. Des produits d'ailleurs pas toujours abordable.
Il y a deux enseignes pour lesquelles l'écart de prix bio conventionnel est évalué à plus de 70%, alors que chez certaines, l'écart de prix est limité à moins de 60%, ce qui témoigne là encore qu'il y a des marges de manœuvre possibles pour rendre la bio plus accessible.
Pour Thomas Utaya-Kumar, directeur des programmes et du plaidoyer, la grande distribution doit s'engager sur le long terme.
Cette part de bio dans le chiffre d'affaires, elle doit aujourd'hui tripler pour que le secteur de la distribution
distribution ne soit plus dans une stratégie opportuniste et qu'elle ne soit pas fébrile à la moindre crise, mais qu'elle ait une vision claire et que ça permette aussi aux agriculteurs en amont de se sécuriser.
La Fondation suggère aussi d'inscrire dans une loi l'objectif de 12% de ventes bio pour les distributeurs.
Et aujourd'hui, le bio représente 6% de la consommation des Français. Consommation toujours, mais pas avec le même budget. La maison de couture italienne Prada vient de conclure un accord avec le groupe américain Capri Holdings pour acheter sa rivale Versace. Les noces donneront naissance à un groupe de luxe au chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros, de quoi concurrencer les géants français LVMH et Kering. Et puis du luxe et des paillettes, il y en aura aussi sur le tapis rouge du Festival de Cannes, 78e édition du 13 au 24 mai prochain. La sélection a été dévoilée hier. Parmi les cinéastes retenus figurent de nombreux habitués de la croisette comme Wes Anderson, Scarlett Johansson ou encore les frères Dardenne. Le jury sera présidé par l'actrice Juliette Binoche.
C'était le journal de Raphaël Ben Abdelmoumen. Je vous laisse quitter le tapis rouge de France Inter, Raphaël, et aller vous coucher. Bonne journée avec soleil et douceur au programme. Des nuages bas ce matin de la Côte d'Azur au Languedoc en passant par le delta du Rhône. Ils se dissiperont pour laisser place à un ciel bien dégagé. Même chose pour les brouillards matinaux le long de la Manche. Des nuages arriveront en fin d'après-midi par l'ouest. Ils s'étendront dans la nuit de la Bretagne au golfe du Lion. Une dégradation qui va nous toucher donc ce week-end. Côté thermomètre, aujourd'hui prévoyez 0 à 10 ce matin, 14 à 27 cet après-midi, 14 à Cherbourg, 18 à Nice, 20 à Brest, Lille, Marseille et Nancy, 21 à Perpignan, Ajaccio et Strasbourg, 22 à Paris et Tours, 23 à Lyon et Clermont-Ferrand, 26 à Limoges et Bordeaux et 27 à Biarritz.
Le 5-6 sur France Inter.
Et on se réveille ce matin avec la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Vous nous parlez d'un retour, celui du groupe anglais Pulp.
Oui, suspendu et ressuscité plusieurs fois, le groupe de Jarvis Cocker revient et sort aujourd'hui un nouveau titre après des années de silence, comme une profession de foi presque disco. No one will ever understand it. And no one will ever have the last word. Because it's not something you could ever say. So swivel. It's a guess, no idea. C'est une supposition, pas une idée, un sentiment, pas une voix dans ma tête, juste un sentiment. Ce feeling, Marion, dont vous parle Jarvis Cocker, c'est sans doute celui qui le traverse au moment où son groupe Pulp se reforme et repart en tournée avec cette fois-ci de nouvelles chansons. C'est le premier album de Pulp depuis 24 ans.
Ah
oui, We Love Life, ça date de 2001. L'album s'appelle sobrement « Mort », autrement dit « Encore ». Alors dans ce nouveau morceau, le parolier originaire de Sheffield parle directement de sa vocation de chanteur. Vous l'entendrez dire tout à l'heure « Je ne suis pas un chaman ou un showman, je suis né pour jouer sur scène. J'existe pour faire ça, crier et pointer du doigt. » Ce qu'il a toujours fait, en effet, avec un sens de la satire sociale assez délicieux. Souvenez-vous, « Different Class », c'était quoi, il y a 30 ans déjà ? Seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do.
Common People, un grand morceau de Britpop,
ah
Mathieu.
Oui.
C'était Pulp, 1995, ça ne nous rajeunit pas. Et Pulp est de retour en 2025, aujourd'hui, avec un nouveau titre qui sort et une nouvelle tournée.
Oui, pour l'instant, qui ne concerne que l'Angleterre et les États-Unis, enfin presque. Il y a une seule date qui est prévue en France cet été pour la Route du Rock, 24 ans après leur dernier passage à Saint-Malo. Franchement, ça vaut le déplacement.
Oh oui,
alors Pulp s'était déjà reformé pour une série de concerts en 2023, mais on retrouvera sur scène pour le nouvel album les membres originaux de Pulp, à part le bassiste bien sûr qui est mort, mais aussi de nouveaux musiciens, notamment des cordes. Côté production, Pulp a fait appel à James Ford, qu'on connaît pour son travail avec Arctic Monkeys, Bess Gibbons, Fontaines D.C., un orfèvre au service du plus pulpeux des groupes de pop. On écoute alors ce nouveau titre, Spike Island. Alors le titre fait référence à un concert fameux des Stone Roses en 90. C'était une sorte de Woodstock baggy qui avait réuni 28 000 personnes en Angleterre à l'époque. La chanson, moi, me fait penser un peu à Bowie, période Heroes.
Ouais,
une marche inexorable et triomphante, un funk avec cette pêche sur le premier temps, porté par les violons des souvenirs, Pulp.
Stop me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. Selling the rights, I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this, shouting and pointing.
Rien de tel qu'un jus d'orange et Pulp au petit déjeuner. Spike Island, le nouveau Pulp qui sort aujourd'hui et rejoint la playlist de France Inter. Vous le disiez, le groupe sera cet été le 15 août à la Route du Rock. Et il passera aussi ce soir chez vous, Mathieu.
Mais oui, avec les autres nouveautés de la semaine, il y aura aussi le nouveau Lana Del Rey, Théodora, Celiawa et même la grecque Stella. Je vous donne le là ce soir et je remets le son à 21h.
Du beau monde à ce soir. À 5h41, le Zoom avec cette question. Comment s'assurer que les moins de 18 ans ne sont pas exposés à la pornographie? Les choses vont enfin changer, puisque depuis un an, une loi a pour objectif de sécuriser l'espace numérique. Elle oblige les plateformes à vérifier l'âge et surtout réclamer une preuve aux visiteurs. C'est l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique, qui est chargé de faire appliquer la mesure. Bonjour Xavier Demagny.
Bonjour.
L'enjeu est énorme et le sujet traverse toutes les familles.
Bonjour. Bonjour. Ah. Oui, comme celle de Vincent, père d'une fille de 14 et d'un garçon de 17 ans, pour qui le premier contact avec le porno a eu lieu très jeune.
Mon fils, qui est rentré en 6e, il est venu nous voir un jour en étant hyper choqué. Il avait vu de la pornographie. Ainsi, il était tombé sur des sites pornographiques en googlant quelque chose sur Internet. Moi, j'ai jamais été contre aborder ce sujet-là, mais je pensais pas devoir l'aborder si tôt, en fait. Je m'étais imaginé plutôt vers la 4e et pas du tout vers la 6e.
Vincent a préféré en parler plutôt qu'interdire.
Lui expliquer que c'est pas la vraie vie. Que je lui souhaite pas d'avoir ses premiers rapports sexuels de cette façon-là.
Mais aujourd'hui, au moins 2,5 millions de mineurs fréquentent chaque mois des sites X, essentiellement sur mobile.
Je m'appelle Justine Atlan, je suis la directrice générale de e-enfance.
L'association a obtenu en justice le blocage inédit de plusieurs d'entre eux, c'était en octobre, et salue l'évolution votée il y a un an à l'Assemblée.
As-tu 18 ans ou pas? Oui, non. Voilà, c'est donc ce qu'on déclare pour accéder à un site pornographique depuis qu'Internet existe, donc depuis 25 ans. Et donc, il a été rajouté dans la loi très explicitement qu'il fallait que les sites pornographiques mettent en place un système pour vérifier, donc non plus déclarer, vérifier qu'effectivement celui qui déclare avoir 18 ans les a bien.
Les sites peuvent demander un selfie, une carte bancaire, mais doivent aussi proposer au moins une solution qui garantit un anonymat total aux visiteurs.
Et rien ne s'y oppose, Xavier, puisqu'il existe plusieurs outils prêts à l'emploi.
et notamment celui de Jackie Lamraoui, que nous retrouvons à Marseille. Son application Anonymage fait le lien entre l'internaute et le site porno. Une fois inscrit avec une pièce d'identité, elle peut confirmer si vous êtes majeur ou non, sans transmettre la moindre information personnelle, ni savoir ce que vous consultez. C'est le principe du double anonymat.
Quand vous accédez au site, toutes les vidéos sont floutées et vous demandent, si vous voulez accéder à ce contenu, de vérifier votre âge.
Effectivement, il y a un petit cadenas sur chacune des vidéos.
Et là, vous avez une liste de plusieurs solutions Anonymage. Donc, quand vous allez cliquer dessus, il va vous proposer de scanner un QR code, une dynamique qui a une durée de 1 minute. Et là, vous scannez le QR code présent sur votre PC. Et l'écran du site se déverrouille et vous propose d'accéder au contenu.
Contournable, cette méthode reste considérée comme un moyen fiable pour protéger les mineurs. Et chaque jour, plus de 50 000 personnes passent déjà par Anonymage, intégré à ce stade, affirme son créateur, dans une vingtaine de sites bien connus. Avec plusieurs autres sociétés françaises sur les rangs, Docapost, Opal et des groupes européens comme Yoti, le marché est en pleine expansion, même si...
On ne peut pas dire qu'à date, dans les conditions actuelles, ça soit rentable. On pense que le marché de la vérification d'âge sera stabilisé à partir du moment où la législation sera étendue aux autres domaines. Donc typiquement, vente d'alcool, vente de CBD, les paris sportifs.
Et pourquoi pas d'autres sites sur lesquels circule également du contenu choquant. Justine Atlan de l'association e-enfance.
Permettre par exemple de respecter enfin la règle des réseaux sociaux de ne pas accepter les moins de 13 ans et qui pour l'instant est aussi sur un registre déclaratif. Et si finalement on pouvait avoir un système qui permettait de vérifier l'âge et vraiment d'être sûr qu'il n'y ait aucun moins de 13 ans sur les réseaux sociaux, ça résoudrait aussi un autre problème qui concerne notre jeunesse et Internet.
Dès la fin de semaine, l'ARCOM pourra mettre en demeure tous les sites français et non-européens qui seraient en infraction. Ce sera en juin le tour de ceux installés dans l'Union, comme le géant Pornhub. Tous risquent le déréférencement synonyme d'importantes pertes financières.
Site pornographique, la vérification de l'âge, enfin, Zoom de Xavier Demagny à réécouter en podcast.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Il est 5h46 sur France Inter, c'est l'heure de contacter notre invitée déjà debout, consultante en management et performance industrielle à Roanne, dans la Loire. Bonjour Aude Paoletto.
Bonjour.
Pourquoi vous êtes déjà debout ?
Eh bien écoutez, alors on a souvent une vision du consultant qui est en costard-cravate à 10h dans les bureaux parisiens. Et moi, mon quotidien, il est un petit peu différent, vu que je suis consultante en management et performance industrielle, mais vraiment sur des sujets opérationnels en industrie.
Et donc, vous vous adaptez aux horaires des usines, en clair ?
Ouais, exactement. Du coup, en fonction des contraintes de mes clients, il y a des gens qui fonctionnent avec des rythmes différents. Il y en a qui commencent à 3h, à 4h, à 5h, à 6h. Et puis, moi, mon métier, c'est vraiment de les accompagner dans des moments managériaux clés, vu que je travaille principalement avec des managers de proximité, des chefs d'équipe. Et du coup, ces moments-là, ils sont en fonction de leurs horaires, et notamment des horaires de matin.
Et à quoi ressemblent vos petits matins à vous ?
Alors, mes petits matins, autant vous dire que maintenant, ils sont efficaces. Et puis, vu que je me déplace un petit peu de partout en France, souvent, ces matins-là, ils sont à l'hôtel. Donc, autant vous dire que je suis efficace. Je négocie la veille avec la personne en charge des petits déjeuners pour avoir un café. Et puis, c'est parti sur le terrain avec les routines en fonction de mes clients. Alors, soit beaucoup d'agroalimentaire, donc ça implique d'être là un peu en avance pour s'équiper, se changer et puis être opérationnel le plus vite possible pour les rituels managériaux qui font un petit peu le démarrage de la journée.
Alors, en quoi il consiste exactement votre travail de consultante ?
Alors, mon travail de consultante, donc j'ai souvent des sujets clients qui peuvent être assez variés. Ceux que j'accompagne principalement sur des postes de matin, ce sont des accompagnements managériaux et puis des accompagnements d'animation d'équipe. Donc le but, c'est d'aller au démarrage du poste pour voir comment ça se passe, comment le manager lance son équipe. C'est vrai, quand on est seul à 3, 4, 5, 6 heures, il y a quand même beaucoup de responsabilités, l'encadrement n'est pas là. Et donc le but, c'est de travailler avec les managers sur comment je lance mon poste, comment je lance mon équipe, comment je donne les consignes et que je fais en sorte de réussir les 8 heures à venir.
Et vous intervenez dans des secteurs très variés ?
Oui, très varié. Je dirais tout le pan de l'industrie. Je pense que j'ai fait peut-être tous les produits alimentaires qu'on peut trouver en France, ou peut-être pas. Mais en tout cas, de l'abattoir. J'ai également fait aussi de la boulangerie-viennoiserie. En tout cas, plein de choses sympas, y compris aussi de l'industrie de process, de la chimie. les domaines d'intervention sont vraiment larges.
Et ça vous fait voyager aussi ?
Oui, ça me fait voyager. Donc, on voit du pays. je pense qu'il y avait plein de villes que je ne connaissais pas ou que je n'imaginais pas. Et surtout, vu que nos clients industriels sont quand même rarement dans les grandes agglomérations, ça permet aussi d'aller voir des territoires qui sont pas des territoires qu'on aurait vus en vacances ou de manière générale. Donc, on découvre des coins sympas en voyageant en tant que consultante.
Une dernière chose, Aude Poletto, votre meilleur souvenir, vous dites que c'était dans un abattoir. C'est étonnant parce qu'on n'imagine pas forcément que c'est un endroit où on peut avoir des bons souvenirs.
Ouais, alors c'est vrai que c'est un milieu qui est difficile. Mais moi, ce que je vois en fait dans ces milieux-là, quand on est le matin tôt sur le terrain, c'est la solidarité qu'il y a entre les équipes. Comme je vous disais, voilà, on est un peu livré à nous-mêmes. Il n'y a pas d'encadrement, alors même si des fois on a des astreintes. Mais du coup, on doit gérer les problèmes ensemble. Et je pense que des fois, plus les conditions de travail sont pas forcément évidentes, et plus il y a une solidarité qui se crée avec une ambiance où on sait que le matin à 3h, quand on démarre, c'est pas évident. Donc, on a des managers qui sont des petites pépites et qui font en sorte que le travail soit facilitant pour tous et toutes. Donc, j'aime ces ambiances-là de matin sur le terrain parce que c'est là où on voit vraiment. Les gens s'enfiltrent et avec une vraie sincérité.
Et ce message de solidarité, ça fait du bien de le partager au petit matin. Merci beaucoup, Aude Poletto. Merci d'avoir été notre invité déjà debout ce matin sur France Inter. Et si vous aussi, chers auditeurs, vous voulez participer à ce Déjà Debout, être notre invité Déjà Debout, vous pouvez nous contacter à cette adresse, le5-7@radiofrance.com. Il est 5h50 sur France Inter. Les réponses à toutes les questions des grands et surtout des petits, étant dans les petits bateaux avec Camille Cronier et ses invités. Et aujourd'hui, un chewing-gum pour la petite Léonore. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, bien dormis ?
Bonjour, je m'appelle Léonore et j'ai 6 ans. Je voudrais savoir pourquoi le matin on sent mauvais de la bouche. Merci.
La bonne haleine fraîche du matin, Léonore. Je pense que tout le monde sait de quoi tu parles. Et pour comprendre pourquoi, donc, on sent mauvais de la bouche au réveil, la dentiste Caroline Gorin est là.
Alors d'abord, je vais peut-être apprendre un mot aux personnes qui nous écoutent, aux enfants et aux plus grands. Donc la mauvaise haleine, ça s'appelle l'halitose.
L'halitose, L'apostrophe ?
L'apostrophe H-A-L-I-T-O-S-E. L'halitose. Et en fait, donc la mauvaise haleine, ça peut être dû à énormément de choses. Ça peut d'abord être dû à un brossage des dents incomplet, c'est-à-dire qu'en fait, la veille au soir, on n'a pas très bien fait le brossage, donc les bactéries, la nuit, elles en profitent, c'est la fiesta. Donc elles vont bien gloutonner tout ça, et puis quand elles gloutonnent, elles font de l'acide, mais elles produisent aussi des gaz qui peuvent donc donner mauvaise haleine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les dents, il y a aussi la langue, et si vous regardez bien votre langue, vous avez des petites papilles dessus. Et en fait, il y a des résidus qui peuvent aussi se mettre entre les papilles. Et c'est pour ça que c'est bien de se brosser la langue.
Donc avant de se coucher.
Avant de se coucher, oui, c'est bien de brosser en fait finalement les muqueuses.
Mais on a quand même le sentiment, enfin je pense que les gens qui nous écoutent, enfants et grands, se disent qu'on a quand même tendance à avoir plus mauvaise haleine au réveil après avoir dormi que dans la journée, après une journée de travail
et oui,
ou d'école.
Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Typiquement, quand on dort, on ne boit pas. Donc souvent, d'ailleurs, le matin, on se réveille, on a envie de boire,
on a la bouche
un peu pâteuse, un peu sèche. Donc il y a aussi le fait d'avoir moins de salive dans la nuit. En fait, les glandes salivaires, elles dorment, elles se mettent au repos. Donc en fait, on a moins le côté nettoyage par la salive aussi. Tout est au repos, la langue est au repos. Donc en fait, forcément, ça va un peu fermenter finalement à l'intérieur de notre bouche. Mais il peut y avoir aussi d'autres causes qui donnent mauvaise haleine. Il peut y avoir des maladies de la gencive. Quand on fait des abcès, donc des infections dans la bouche, ça donne mauvaise haleine. On peut aussi avoir mauvaise haleine à cause d'un problème ORL, donc qui touche en fait les autres parties. Donc ça peut être les amygdales, ça peut être le fond de la gorge, ça peut être le nez. Donc c'est important parfois, quand on pense qu'on fait très bien les choses, que le dentiste dit qu'il n'y a rien, d'aller consulter un médecin.
Est-ce qu'il y a des méthodes pour avoir moins mauvaise haleine le matin ou pas ?
Ce serait de boire avant de se coucher, déjà. Après, il faut le juste milieu entre boire et pas se lever la nuit parce qu'on a un peu trop bu la veille. Et surtout, bien brosser ses dents, donc utiliser le bon matériel, un dentifrice un peu mentholé, comme ça, ça donne une petite sensation agréable pour le coucher. Et après, effectivement, le matin, c'est forcément, on a moins bonne haleine si on a dormi ces 8 heures sans boire. Ça, c'est logique, en fait.
Mais ça va repartir dès qu'on mange et qu'on se relave les dents.
Exactement.
Alors, hop, allez, on brosse. Salut les matelots.
Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli Radio France.
Et salut Camille Cronier, vous revenez à 20h.
France Inter. Le 5-6.
Et au saut du lit, c'est l'heure d'un café philo et de sauter dans le terrier. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Tout le monde connaît Alice au Pays des Merveilles, mais ce matin, nous allons évoquer une Alice au Pays des Idées.
Oui Marion, puisque c'est le titre d'un essai signé Roger Paul Droit. L'héroïne de ce voyage philosophique s'appelle donc Alice. Alors bien sûr, il y a un clin d'œil à Lewis Carroll, mais surtout, c'est parce que sa mère est une fan d'Alice au Pays des Merveilles qu'elle a prénommé sa fille Alice. Cette Alice-là est une jeune fille du 21e siècle, vivant dans son temps avec toute l'anxiété qu'on imagine. C'est, je crois, le lot de beaucoup de jeunes.
Oui.
Elle est préoccupée par la survie de la planète, par celle des animaux et aussi par la guerre. Alors, quelle phrase pourrait bien lui servir de boussole? Quelle phrase pourrait-elle se faire tatouer sur le bras? Comme Alice au Pays des Merveilles, eh bien, elle va explorer le monde des sages et des philosophes, espérant y trouver un guide.
Alors, les sages et les philosophes, ça fait pas mal de monde quand même, c'est un vaste programme.
Je vous l'accorde. Alors, de Goethe à Machiavel, en passant par Aristote, Galilée ou Montaigne, notre Alice va rencontrer de grandes figures. Elle va se promener au marché d'Athènes, où elle rencontrera Socrate. Au jardin d'Épicure, elle croisera Épicure,
bien sûr,
ou encore Bouddha sur le Gange. En se baladant avec Nietzsche, elle se rendra compte que ce n'est pas, je cite Nietzsche, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou.
Oui.
André Comte-Sponville nous fait part de sa propre expérience en matière philosophique.
Moi, quand j'avais 18-20 ans, j'étais bien plus fasciné par des sagesses beaucoup plus ambitieuses. Épicure, Spinoza, La fin des lettres à Ménécée. Épicure écrit, médite mes leçons jour et nuit, et tu ne seras jamais troublé, mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes. Car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. À 18-20 ans, moi, ça me bouleversait. Sincèrement, si maintenant je vous disais, je vis comme un dieu parmi les hommes. Oui. Autrement dit, la sagesse épicure, l'ataraxie en grec, l'absence de trouble, la sérénité totale. C'est un très beau rêve quand on a 18-20 ans, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Mais parce que Montaigne a tout dit en une phrase, c'est chose tendre que la vie et aisée à troubler. Ataraxie, c'est l'absence de trouble. Épicure, sagesse totale, immuable, définitive. Sauf que Montaigne, c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Il m'a fallu 20 ou 30 ans pour faire mon deuil d'Épicure grâce à Montaigne et donc pour aimer la vie plus que la sagesse. Et je veux dire, en vérité, la sagesse n'a aucune importance. Ce qui compte, bien sûr, c'est la vie. Mais c'est une forme de sagesse que de comprendre ça.
La vie, cette chose tendre plus que la sagesse, il faut parfois en effet toute une vie pour s'en rendre compte, Patricia.
Ouais, exactement. Et la réflexion de Roger Paul Droit va dans le même sens. J'ajoute que Alice au Pays des Idées est un livre à mettre entre toutes les mains.
Oui.
Du reste, son auteur le dédie à Léonia et à Arnaud, ses petits-enfants.
Roger Paul Droit qui sera donc votre invité ce soir dans L'Heure Philo, ce lumineux roman Alice au Pays des Idées est publié chez Albin Michel. Deuxième invité de l'émission, Paul Audy. Il a imaginé la rencontre de deux amis français après le pogrom du Hamas le 7 octobre 2023. Et là aussi, il s'agit de faire passer ses émotions par le biais du savoir et de la réflexion. Le livre s'intitule « Tenir tête ». Il est publié chez Stock. À ce soir.
À ce soir, Marion.
20h10.
France Inter présente...
Salut, c'est Tina.
Et moi, c'est Mousse.
Retrouve-nous dans le podcast « Tina et la ceinture d'Alexandre le Grand ».
Une aventure pleine de suspense.
Un voyage sur les traces d'Alexandre le Grand.
Je suis un de ces hoplites.
Un quoi?
Un soldat, quoi!
À la recherche de la ceinture au diamant noir,
qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains.
Elle rend celui qui la porte invulnérable.
« Tina et la ceinture d'Alexandre le Grand ». Un podcast France Inter à écouter sur l'appli Radio France.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
5h58 et voilà Céline Dacosta, bonjour.
Bonjour.
La météo.
Avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain.
prefond.fr.
Et Céline, ce sera encore une journée ensoleillée aujourd'hui?
Oui, largement ensoleillée, même s'il faudra patienter un petit peu pour voir ce soleil, comme sur les côtes de la Manche, où on a pas mal de nuages bas, de brouillard au lever du jour, des brumes.
On va attendre que le soleil se lève.
Et tout... Déjà. Mais en plus, il faudra attendre que ces brumes se dissipent. Alors, ça sera assez rapide sur les côtes de la Manche. Sur les côtes du Languedoc-Roussillon et la basse vallée du Rhône, là aussi, on a des nuages ce matin. Ça va dissiper, mais ça sera un petit peu plus long. Partout ailleurs, grand soleil toute la journée. On aura juste l'arrivée de nuages en fin d'après-midi de La Rochelle à Perpignan, des nuages qui deviendront de plus en plus denses, avec un risque d'ondées sur les Pyrénées-Atlantiques dans la soirée. Et ça, ce sont les prémices de la dégradation qui nous attend demain et qui arrivera par l'ouest.
Et pour les températures, Céline, c'est toujours très contrasté entre le matin et l'après-midi.
Oui, jugez plutôt, il fait 3 degrés à Strasbourg en ce moment, il en fera 21 cet après-midi. Matinée bien fraîche, avec quelques faibles gelées du centre au nord-est, une moyenne de 2 à 9 degrés dans les terres, 10 à 15 près des côtes. Et puis cet après-midi, très doux, voire estival par endroits comme à Biarritz, en 27 degrés. Il en fera 26 à Bordeaux, 24 à Grenoble, 23 à Bourges, 22 à Paris ou 20 à Lille. On sera bien souvent au-dessus des 20 degrés, quelques exceptions comme à Caen, 17 degrés ou Montpellier avec les nuages, ça ne dépassera pas les 18. Cherbourg, ça sera la plus basse, on aura juste 14 degrés.
C'était la météo de Céline Dacosta.